Adeline, bonsoir.
Bonsoir.
Tu nous entends?
Oui, je vous entends. Bonsoir tout le monde.
Bah, bienvenue sur l'émission Passe-Muraille. On a déjà eu l'occasion de s'entretenir avec toi dans d'autres émissions.
Oui.
Et puisque tu ne captes pas vraiment là où tu vis, en fait, on est en antenne avec une personne qui a témoigné, qui est en train de témoigner, qui témoigne Olivier.
Olivier. Voilà. Bonsoir Olivier.
Salut Adeline. Salut Adeline.
Salut.
Alors, du coup, on essayait de voir un peu aussi comment ça s'est... Parce que là, on parlait du fait qu'il y a eu beaucoup de monde qui était présent lors du procès d'appel. Et voilà, nous, on a aussi envie de...
De t'écouter, de t'entendre, voilà. Tout ce que tu as envie de parler. Mais surtout, on aimerait te poser la question, comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce soutien? Comment tu as commencé à avoir des liens, de ces réseaux, et pourquoi tu considères important d'avoir le soutien lors le procès de Roman?
D'accord. Ben, déjà, tout d'abord, moi, je voudrais vous passer un message à la radio de la part de Romain. Alors, il remercie du fond du cœur tous ceux qui ont été présents pour lui à Grenoble. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que toute la soirée soit pour lui. Il pensait que c'était pour d'autres affaires et il a été très touché. Et vous remercie tous. Là, il est en train de préparer une lettre qui va être pour que je vous l'envoie pour être lu aux radios. Et vous l'a dit de dire aussi que le combat continuait, que ça ne s'arrêterait pas là.
Merci, merci la parole de Romani, on entend sa lettre.
Il n'y a pas de souci. Ben moi, le procès à Grenoble, donc j'ai pas pu être présente parce que vu la distance, moi j'étais vu que j'ai déménagé, donc c'était impossible pour moi. Et surtout avec le bébé, faire 6 temps de route, c'était impossible. Mais je remercie aussi tous ceux qui ont pu être là à ma place. Ça vient du cœur. Et tu m'as demandé quoi, Rosa, après?
Si, de quelle façon tu as commencé à voir... de quelle façon tu as commencé à bouger pour avoir ce soutien, de connaître les gens dans ce monde anticarcéral, pourquoi tu as considéré important d'avoir le soutien? Et surtout, je pose toujours cette question aux proches des prisonniers qui accompagnent les prisonniers dans sa lutte, que ça, quand même, c'est un risque. Donc, avoir le soutien, c'est important, mais ça pose du risque aussi. Donc, pourquoi tu considères que c'était important?
Ben, c'est important pour montrer surtout à l'administration pénitentiaire qu'ils ont beau être enfermés, mais qu'il y a dehors, il y a quand même des personnes qui sont là pour eux et qui sont contre ce système-là, quoi.
Oui.
Ça, c'est très important parce que si on commence pas par là à faire des choses comme ça, comme moi j'ai fait, ça montre à l'administration pénitentiaire, en fait, qu'il y a personne dehors, que les détenus, eux, à l'intérieur, n'ont pas de famille, n'ont pas de soutien à l'extérieur.
Exact. Et qu'est-ce que tu as fait tout d'abord? Comment tu as commencé à trouver des liens?
Eh ben, tout d'abord, moi, j'ai commencé après la première mutinerie. Déjà, avant la mutinerie de Valence,
oui.
On avait contacté la contrôleuse des privations de liberté et ministère pour leur envoyer des courriers aussi, pour leur dire comment ça se passait là-bas, les conditions dans lesquelles les détenus étaient. Parce que moi, j'allais voir mon mari, il était pas bien. Mais physiquement, moralement, ça n'allait pas. Et après cette mutinerie, donc, j'ai décidé de me bouger. Et j'ai contacté par un ami qui est sur Paris, qui m'a conseillé de contacter l'Envolée. Mmh. Et moi, donc, j'avais contacté l'Envolée à Paris à ce moment-là. Et c'est de là que tout est parti. En premier, à Valence, il n'y a pas eu grand monde parce que, comme vous avez pu le savoir, au lieu que ce soit un procès en public, ça s'est terminé en huis clos.
Excellent.
Ouais.
Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, après ce procès, on a décidé avec l'Envolée, tout ça. Et puis, moi, j'ai passé pas mal sur plein de radios pour faire des appels de ce rassemblement sur Grenoble le 14 juin pour faire un comité de soutien pour mon compagnon, mais aussi et surtout pour tous les détenus de France, longue peine, et même les autres qui sont incarcérés et dont les conditions sont exactement pareilles, quoi.
Mmh. Très bien. Et on va te rappeler encore justement pour un autre thème thématique, les femmes face à la prison.
Tout à fait. Mais alors, juste avant de parce que en fait là, moi aussi j'avais une question. En fait, toi, tu avais déjà entendu parler de, je sais pas, tu vois, de soutien aux familles par l'intermédiaire, tu vois, justement, de l'envolée, de certains journaux, de choses comme ça, ou quand t'es arrivée...
Non, pas du tout. Parce que moi, ça fait 10 ans que je me battais toute seule, quoi, on va dire. Ouais. Et j'avais jamais entendu parler de l'envolée. Et c'était la première fois que je l'ai contactée. Ouais. Et je regrette pas du tout de les avoir contactées.
Donc maintenant, tu peux diffuser un petit peu, pour voir si...
Non,
si l'autre prisonnier aussi qu'ils ont besoin de soutien.
Voilà. C'est ça.
Oui, il y en a plein d'autres qui sont encore plus pires situations. On pense à eux, on les oublie pas. Et j'espère aussi que les choses bougeront pour eux.
Si.
Parce qu'il y en a, ils sont dans des conditions lamentables, quoi.
Si, et justement pour ce thème, de tout ce que tu fais, à part de soutenir ton compagnon, on aimerait en parler un petit peu plus tard dans la partie femme face à la prison, si ça te dit.
Oui, il n'y a pas de souci.
D'accord, ouais, merci.
Super. Et on te reprendra tout à l'heure alors. Ça marche ?
Il n'y a pas de problème.
Okay, merci.
Merci.
À toutes. Merci,
à tout à l'heure.
Et on a toujours qui à l'antenne, n'est-ce pas ?
Avec Morta Liberta. Ah, pardon, avec Olivier.
Olivier d'abord. Donc,
non, c'est bon. En fait, c'est bien des gens comme Adeline, c'est super. Parce que c'est comme ça que démarrent les choses. C'est avec quand les familles et les proches comme ça prennent les choses en main, que ça permet de vraiment fabriquer quelque chose. Beaucoup plus que quand c'est même si ça sert pas à rien, bien sûr, hein, ça sert jamais à rien, mais que quand c'est juste nous, on fait ça depuis je sais pas combien de temps. Ça manque souvent de combativité, quoi, forcément, puisqu'on n'est pas complètement dedans.
Oui.
Et là, c'est super ce qu'elle a fait de l'une. Et Romain, les deux, hein.
Oui.
Donc reste quand même en écoutant l'émission, que maintenant on a des invités de Marseille.
Juste avant de reprendre Morta Liberta et Zino, qui sont avec nous ce soir, j'avais juste une petite information à faire passer à la radio Galère et aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Parce qu'en fait, Passe-Muraille, c'est, comme vous l'avez vu, c'est des personnes qui viennent témoigner, c'est des personnes qui sont proches ou qui sont eux-mêmes incarcérées, qui viennent parler en fait, de leurs histoires. Et donc, vous n'hésitez pas à nous appeler à n'importe quel moment pendant l'émission, si vous avez envie d'intervenir, si vous avez en fait, simplement envie de passer un mot à vos amis, vos familles, vos proches, ou une chanson ou quelque chose, quoi que ce soit. Vous avez le numéro de l'antenne, on vous prend en antenne à 04 91 08. 28 10 et je répète 04 91 08 28 10 sur Radio Galère Basse Muraille.
Ou le répondeur.
Ah oui, tiens, c'est vrai, on a un répondeur aussi parce qu'on n'est pas toujours. Pardon ?
On n'a pas toujours la radio. Exact. Donc le numéro de Basse Muraille, c'est un répondeur 07 51 07 80 77. Tu peux répéter ?
Tu peux répéter parce qu'en fait, moi, je ne m'en rappelle pas.
Avec
07.
Avec une différente accent maintenant.
07 51 07 80 77. 07 51 07 80 77.
Super. Et on va revenir, on accueille de nouveau Morta Liberta et Zino pour un nouveau morceau. Ça vous fait, vous êtes chaud toujours pour un morceau ? Ouais, ça va, vous n'êtes pas en train de fondre dans la radio là ?
À la radio, c'est...
Et alors,
c'est à vous.
On va vous lancer votre son.
Ouais, deuxième rafale. Connu la rue, connu les gardaves. J'arrive du turfu sur un nuage de bédave. Ils veulent m'enterrer, mais laisse-moi m'en sortir. J'ai dû mériter, je veux m'en sortir. On tire au tabac, mort à liberta. On tire au Qatar, peur de mourir en bas. Réussir c'est trop tard pour ton équipe de bâtard. Mais il est jamais trop tard quand ton passé te rattrape.
Morta Liberta
1.
C'est le zoo
139. Là je roule un pétard devant une pouffe à quatre pattes. J'ai les yeux qui brillent et le cerveau rabat. Je le tue en quatre barres comme s'il y avait la bague. Ça crie plus et ça se barre, ça remonte à la part. Y'a des flics dans le bloc pour un GC t'embarque. Soit se mêle un bout de frappe, j'ai mis le rap en cloque. Gros je te pèse au Mike, try ball Honda. Tu penses à Tony quand tu pèses Gina. Quand y'a pas de whisky, je me tue à l'Orangina. Le bonheur est sexy, laisse bout le Mexique. Non, j'suis pas au Brésil, ni même au Mexique. Zepo sur une île, j'fume la frappe de Caliste. J'écoute pas ces débiles, ouais, j'les ken à hors piste.
Ouais, ouais.
Ton cœur c'est de l'or, de le piquer, je résiste. J'aime les scènes hardcore, non plus rien me rend triste. Elle joue trop la scène, je vis froid, c'est l'hymen. Écrit comme une chaîne, chante ses abdomens. Je fais le tour de ma ville, je repars au charbon. J'ai la fille, elle m'a dit que c'est charbon. Je te parle de vécu, toi t'es plein de bobards. Sors des quartiers sud comme le 13ème art. On m'a dit que j'assure, mais le bento c'est bizarre. Quand j'ai dit ouais, j'assume, y'a beaucoup de bâtards. Je repense aux absents, pour la patience à pas de temps. Ça serait embêtant de croiser des agents. Et béton sans argent, le regard inquiétant fait de la peine à maman. La rue t'a formé, mais l'état t'a détruit. T'es sorti ta zone, puis t'as tout reconstruit. Bien aimé des aînés, adoré des petits. Oh à la m'abonner, tu en tires le profit. Tôt ou tard, tout se paye. Fais confiance à Yabé. Ouais, ouais, 139. Tout se paye, mon ami Morta.
Marseille City
139 TPLP 143 on est là. C'est Radio Galère. J'en dirais. Connu les cardaves. J'arrive du turfu sur un nuage de Beida. Ils veulent m'enterrer, mais laisse-moi m'en sortir. Ouais.
Mais laisse-moi m'en sortir. Ça arrive. GTA. Le 1 et le 2, bientôt le 3.
2017.
Chala, hein.
Merci.
Merci à vous.
Yes. Et bon, là, du coup, merci d'être venu encore une fois.
Merci à vous.
Et vous avez des messages peut-être à transmettre. Vous avez des potes un peu qui sont au Bomet ou quoi ou...
Déjà, donner la force à. Comment c'est qu'il s'appelle Roman.
À Roman.
Roman le roi.
Ouais, déjà, donner la force à lui parce que c'est un acte brave qu'il a fait. J'ai entendu vite fait donc, ce qu'il a pu faire, tout ça. Et c'est vrai que. C'est bien quand même ce qu'il a fait, parce qu'il y en a très peu qui le font, alors que c'est dur les conditions de vie en prison. Zino lui-même, il pourrait le dire.
Ouais, moi pour Kassim, Badri, Sinaloa, Lizard et tous les autres. Hein,
ouais, grosse dédicace à Badri, mon cousin Hussein aussi, à Duc, à mon petit cousin Lounès. Grosse pensée à vous tous les 100.
De toute façon, la sortie, c'est sûr.
Eh ouais. Et à Nino de la Busserine aussi, grosse pensée à toi, il a pris 30 ans.
Ok, ouais, bah merci de.
Merci des pensées pour lui.
Ouais. Exact. Et on vous, vous entend, attendre pour une prochaine fois peut-être, non?
T'entends
rien? Si, ça y est, à nouveau.
Oui. Je sais pas, le micro ne marche pas, je suis censurée, pas, je m'auto-censure. merci d'être venu et puis on vous souhaite une bonne suite.
Merci à vous et merci à vous aussi, une bonne suite et continuez comme vous faites, c'est très bien.
Yes,
très
merci.
Bien comme ça.
À bientôt.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Donc, vu qu'on a parlé des luttes, même des luttes collectives, et Roman, lors de son procès, il a réindiqué la lutte contre la QHS, on aimerait inviter Christophe Soulier.
C'est peut-être juste deux secondes.
Si.
Du coup, moi, je n'ai pas trop suivi ce qui s'est passé à Condé là, ces derniers jours, et je crois que ça a été évoqué que très brièvement. Ah, je crois qu'ils n'ont pas...
C'est... Moi, je ne suis plus... pas trop la personne plus informée.
On en parlera plus tard.
Mais que je sache un petit peu... Là, je ne sais pas si peut-être les compagnons ils ont plus d'informations sur ce qui s'est passé à Condé-sur-Sarthe maintenant, récemment. Il y a quelques jours, qu'un prisonnier, en entrant du promenade, il a attaqué à une matone. C'était ça?
Oui, y a un maton qui... vous m'entendez ?
Oui. Ouais.
Il y a un maton qui s'est pris... qui a été poignardé.
En entrant du promenade.
À Condé-sur-Sarthe, voilà. Du coup, dans voilà. La prison c'est ultra ça. Sécuritaire.
Voilà, voilà. Okay. Tout à fait.
Exact.
Et pour simplement...
Oui.
En fait, on va passer à un autre sujet qui est celui de Liberté sur parole, le livre de Christophe Soulier.
Oui, mais surtout, qui parle, même pas tellement peut-être de livre, mais déjà qu'il nous parle du CAP, donc Comité d'action des prisonniers, faire une peut-être historique contre la QHS et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. La lutte contre la QHS, donc avec un autre nom, il existe le QHS, non ? Et même, on a vu que même Roman, lors de son procès, a réveindiqué la lutte contre la QHS. Donc Christophe,
les QHS aujourd'hui sont assez bien incarnés dans les quartiers maisons centrales, comme celui où Roman s'est révolté, ou comme la prison de Condé-sur-Sarthe, ou celle de Vendin-le-Vieil, dont on parlait à l'instant, ces nouvelles prisons ultra sécuritaires.
Exact. Mais avant de passer la parole à Christophe, il y a une petite partie de son livre, l'avant-propos de Liberté sur parole, que ça sera bien de le lire.
Oui, tout à fait, mais on peut le saluer parce que du coup, on l'a à l'antenne.
D'accord.
Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir.
Tu nous entends bien ?
Oui, j'entends très bien.
Ok, super. Alors là, on avait l'idée de lire un petit morceau, un extrait du livre.
Oui, Liberté c'est ce que m'a dit Rosa, oui.
Mmh. Ouais.
Y a pas de problème.
Ok, et on te reprend après.
D'accord.
Donc l'enfermement est tellement ancré dans nos têtes qu'il semble la réponse naturelle à tous les problèmes graves qui secourent nos sociétés. De nouveaux cas extrêmes se sont ajoutés aux viols et aux meurtres d'enfants pour faire accepter et même revendiquer l'enfermement et autres formes d'élimination, celui-ci étant ramené au niveau d'une bombe insecticide ou d'un enzyme glouton. Sans contaminer par les virus sida, meurtres racistes, diffusion du virus VIH par des rapports sexuels, etc. La lecture du CAP des années 70 est un contrepoids à tous ces discours d'impulsion, d'émotion, qui se jettent sur les effets sans jamais en appréhender les causes. Mon travail se veut aussi une réponse, parmi d'autres, à tous ces discours sécuritaires qui imprègnent à présent tout notre espace social. Mon objectif est de contribuer à rendre l'enfermement moins évident, moins naturel, moins allant de soi, de le replacer dans une problématique politique et sociale et non pas technique. L'histoire du CAP permet cela.
Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter de toute
histoire ? Là, c'est un texte que j'ai écrit en 1996, mais il me semble qu'effectivement, on peut tout à fait le percevoir maintenant dans la même dimension. Quoi. Le sécuritaire s'est même amplifié, cet espace qui fait que la prison, il est impensable d'imaginer sa suppression pour la plupart des gens au niveau politique. Là-dessus, les choses se sont plutôt aggravées, quoi, on va dire. Mais c'est vrai que, pour revenir à la question des QHS, qui effectivement c'est aussi une réponse de plus dans le sens du sécuritaire. C'est vrai que j'ai suivi le procès des prisonniers de Valence, donc Romain, José. Bon, je les suis par la presse, je ne suis pas allé sur place. Et c'est vrai que cette question des quartiers, quartiers maisons centrales, QMC, m'a fait furieusement penser, au QHS. Je ne connais effectivement, j'ai un peu décroché par rapport au suivi régulier de la prison. Je ne connaissais pas l'existence de ces quartiers. J'ai découvert ça, et à partir de ce procès, ça m'a fait écho également à cette bataille qu'avait menée le CAP, donc le Comité d'action des prisonniers, dans les années 70, donc par rapport à une prise d'otage à Lisieux de prisonniers qui voulaient s'évader. Qui en fait voulait échapper à l'enfer qu'il vivait, et qui, la tentative d'évasion échouant, avait retenu les surveillants dans l'atelier où ils étaient. Donc c'est devenu une prise d'otage. Mais en fait, l'action du CAP et puis d'autres forces qui se sont mises avec a pu faire ressortir tout à fait une autre dimension, celle de gens qu'on met dans des situations où le seul moyen d'échapper et de devenir un monstre, c'est de s'en évader. C'est un petit peu le sens de cette bataille qui a commencé donc par des mouvements collectifs de dénonciation des conditions de détention dans la QHS, qui a pris de l'ampleur avec le procès de Lisieux, et avec des questions qui ont été posées, qui ont permis même à des philosophes comme Michel Foucault d'intervenir et de faire un article dans Libération, dont je cite, hein, du 22 mars 1978, et toute la question peut se poser exactement pareil pour des révoltes dans les quartiers comme les QMC. Ce texte de Foucault est très intéressant, puisque il dit bien que la loi punit un homme pour ce qu'il a fait, mais jamais pour ce qu'il est, encore moins pour ce qu'il serait éventuellement, encore moins pour ce qu'on soupçonne qu'il pourrait être ou devenir. Or là, avec les QHS, on n'est plus du tout dans cette logique. On va punir quelqu'un pour ce qu'il peut représenter dans le futur. Donc c'est virtuellement, il est dangereux. Et cette dangerosité devient une catégorie et qui modifie la forme de l'incarcération, puisque purger sa peine dans un quartier de haute sécurité et sans doute maintenant dans un quartier maison centrale, ce n'est pas la même chose que d'être dans un centre de détention, avec une vie beaucoup plus collective, avec des parloirs sans séparation. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est pour les QMC, mais c'était tout ça qui était posé. Et donc Foucault, il embraye là-dessus en disant « Donc je te punis parce que tu n'es pas comme il faut. On arrive à cette histoire, ce n'est plus du tout une infraction par rapport à la loi, c'est une infraction par rapport à la normalité d'un comportement. » Et donc la dangerosité devient une catégorie quasiment au niveau pénal, quoi. Or, là, ce que Foucault rappelle, c'est que la loi n'autorise pas à punir une simple virtualité. Donc, c'était la question qui a été posée. Bon, je ne sais pas, on peut continuer à discuter, si vous voulez. Je posais à peu près le cadre, quoi.
Oui, et qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois la possibilité d'un mouvement collectif, ou qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui exactement de continuer sa lutte contre la QHS?
Ben, au niveau mouvement collectif, je pense qu'on n'est plus tellement dans cette dimension-là. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Hein. Quand je dis ça, c'est un constat sur maintenant. Si on reprend la lutte des QHS, celle des années 70. Alors effectivement, le CAP donc se construit et émerge à la fin de l'année 1972, après les révoltes de 1971, 72, 70 même. Il y a une série de révoltes et il y a des prisonniers issus de ces révoltes qui sortent, qui sont libérés pour fin de peine et qui rencontrent ceux qui, de l'extérieur, avait commencé à poser aussi la question de la prison, avec le groupe Information Prison, qui, lui, au départ, était lié à la lutte des prisonniers politiques maoïstes, qui ont voulu, ne se sont pas battus uniquement pour obtenir un statut politique ou un régime spécial, mais qui, par sans doute des années, ce qu'ils faisaient, pensaient qu'il fallait effectuer que toute la population des prisons étaient des prolétaires emprisonnés qui subissaient donc une violence de classe. Et le CAP s'est construit autour de ça, avec des grèves de la faim à l'extérieur de militants, des grèves de la faim à l'intérieur. Et le GIP avait lancé un processus d'enquête qui faisait ressortir une dimension qu'ils ont appelée l'intolérable. Donc ce qui se passait dans les prisons était intolérable et ne devait plus être toléré par la société. Et là, on était dans un contexte après 68, et il y avait quand même du monde pour se battre sur ces bases-là. Et du coup, via le CAP et d'autres mouvements, oui, il y a eu les prisonniers ont mené des luttes collectives à ce moment-là. Sur le modèle, on va dire, du mouvement ouvrier, puisque Il se disait les prolétaires détenus, la centrale de Melun. Je pensais à Melun, qui est la centrale de Melun, c'est là d'où sort le cap. Et il dit, ils ont mené des grèves, ils ont fait des affiches, parce que c'est l'imprimerie pénitentiaire aussi. Ils ont utilisé les moyens du bord et ils ont fait circuler des choses. Donc il y a eu aussi des révoltes avec les détenus sur les toits. Hein. Ça a été une forme de à partir de la centrale de Toul, moi c'est des images qui m'ont marqué. Toul, Nancy, évidemment, la prison Charles III en 72. Puis Melun, on a toute une série de prisons où les prisonniers vont sur les toits. Donc là, ils deviennent visibles collectivement. On n'est plus dans le corps emprisonné, celui de l'anthropométrie, la photo de face et de profil, la tenue pénale. On a des gens qui sont sur les toits, qui expriment ce qu'ils sont réellement. Donc là, c'est une sacrée révolution. Et avec des gens qui viennent les soutenir à l'extérieur. Donc on regarde les témoignages de l'époque, que ce soit à Lyon, la prison Saint-Paul, le Melun, toutes ces grandes révoltes, Nancy, il y a des gens qui viennent à l'extérieur pour les soutenir. Il y a donc une communication via les toits entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça, c'est du mouvement collectif. L'apogée de ces mouvements de révolte, c'est 74. Au niveau des révoltes donc des prisons, l'été 74 notamment, et avec des centrales qui se retrouvent quasiment détruites hein, par l'incendie, mais avec une répression terrible, avec des morts. Et la pénitentiaire et puis le ministère de la Justice en tirent le bilan, et c'est la réforme de 75 qui crée des régimes très différents. Donc les centres de détention, les maisons centrales, les QSR, quartiers qui s'est renforcé, des quartiers de plus grande sécurité pour les prévenus, les QSR étant pour les condamnés. Et donc on individualise par ce biais les prisonniers. C'est-à-dire que avant ils étaient quasiment tous traités pareil. Bon, après les plus récalcitrants étaient envoyés dans des... Il y avait une prison de force, hein, c'était la prison de Mende, ça existait déjà, ce qui préfigure les QHS, mais... Ça n'avait pas d'existence officielle. La réforme de 75 institutionnalise tous ces parcours, on va dire. Et à partir de là, il y a moins de mouvements collectifs parce que les parcours sont différents. On peut espérer avoir des remises de peine dans un certain régime. On les perd dans un autre. On a des parloirs sans séparation. Dans certains types d'établissements, les centres de détention, il y a les vitres dans les maisons centrales ou dans les QSR. Donc il y a des régimes très différents qui font des peines différentes. Et la réforme de 75, on va dire, casse aussi les mouvements collectifs possibles. Alors la bataille des QHS, qui elle va être après cette date de la mise en place de la réforme, il y a quand même un début de mouvement collectif qui va se passer par des refus de plateau à partir de 77, en soutien à des détenus qui font la grève de la faim dans plusieurs QHS. Et donc là, oui, on a encore du collectif. Il y a encore du soutien collectif. Il y a du soutien extérieur aussi. C'est la période des années 70. Il y a quand même des gens qui sont prêts encore, même en 79, à réagir et à être là, quoi, et à constituer des fronts assez larges. C'est-à-dire qu'on a évidemment le CAP qui va être le support de l'action contre les QHS, mais il va associer avec, autour du mouvement, il peut y avoir le syndicat de la magistrature sur certaines actions, il peut y avoir des collectifs de travailleurs sociaux, les handicapés méchants, le collectif des luttes des handicapés. Je pense à Babatou Abachar qui avait écrit ce livre « Babette handicapée méchante ». Donc il constitue des fronts qui sont assez larges. Des forces politiques de gauche aussi peuvent suivre. Bon, maintenant, c'est vrai que la gauche n'existe plus trop, mais à l'époque, il y avait, bon, par exemple, la Ligue communiste, Lutte ouvrière, qu'on retrouve aussi, qui publie les communiqués. Même le Parti socialiste, à l'époque, peut être présent dans le soutien, sur les conférences de presse, dans le soutien aux prisonniers en lutte. Et donc voilà, on est petit à petit, on a des mouvements collectifs qui sont canalisés et cassés par la pénitentiaire. On arrive dans des luttes beaucoup plus individuelles qui vont passer par des grèves de la faim, des gens qui luttent individuellement, mais qui, malgré tout, peuvent susciter le soutien et donc permettre à d'autres gens de lutter autour. Il y a cette articulation que permet le cap entre le dedans et le dehors. Mais au niveau des prisons elles-mêmes, c'est plus difficile. Puis sans compter que, et ça j'ai pu le constater par moi-même, l'accès au toit a été nettement verrouillé, quoi. C'est une des fragilités du système. Et on a eu encore des montées sur les toits, mais c'est de plus en plus rare parce que là aussi, la pénitentiaire aussi a analysé tout ça, quoi.
Pardon. Et dans le livre que tu as écrit, Liberté sur parole, est-ce que tu fais un parallèle entre les QHS et les QMC ?
Oui, c'est ce que je disais que quand j'ai vu l'existence des QMC. Ce régime, c'est plus donc, pour revenir avec les termes vraiment officiels, ça serait plus avec les QSR. Donc c'était les quartiers de sécurité renforcés qui ont été créés par la réforme de 75. Ouais. C'est-à-dire c'est des établissements pour condamnés qui devraient être en maison centrale avec une vie plus collective. Et c'est des gens qui se retrouvent très isolés. Alors, est-ce que les cellules de QMC sont comme celles des QSR où le mobilier était scellé, le repas devait se prendre très rapidement dans une vaisselle en plastique avec un climat vraiment, une ambiance très 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 sécuritaire, des fouilles incessantes, en promenade il n'y avait pas plus de 2 personnes, voire 3, mais c'est tout, dans des cours étroits, grillagés. Alors peut-être ça s'est étendu à d'autres régimes, moi je parle des années 70, et en lisant les QMC, oui, j'ai pensé tout à fait à ça, et notamment par le fait que des longues peines puissent se retrouver dans ce genre d'établissements qui sont assez, pour moi, assez délirants, parce que la prison même en centrale, ça ne va pas être terrible, si en plus on est encore plus isolé. Ça me rappelle furieusement cette époque. Et la révolte, et j'ai lu sur le site Rebellion de Lyon un compte-rendu du procès de Romain José.
Exact.
J'ai trouvé vraiment que j'ai trouvé des similitudes aussi dans ce qu'il portait, ce qu'il défendait. Ce que j'ai senti, en tout cas.
Oui, et justement, comme tu as dit qu'aujourd'hui, donc depuis 1975, la population carcérale est divisée, donc c'est toujours bien revenir à cette question de lutte collective, parce que quand même, donc, il y a des gens qui, même dans une lutte individuelle, revendiquent, vu que, bah, par exemple, Romain, on n'oublie pas les mots de notre ami Kamel, de Marseille, qui a dit « Quand je parle de moi, je parle des autres. Quand je parle des autres, je parle de moi. »
Oui.
Et Christophe, on aimerait revenir à cette question une autre fois, mais déjà, on doit, malheureusement, on est limité dans le temps, donc on doit passer à un autre sujet. Mais on t'attend ici une prochaine fois, même peut-être personnellement à Marseille.
Allô, je n'ai pas compris.
Oui. Pardon. Oui, on disait simplement « Merci ».
Ah oui, d'accord.
Qu'on a marré, on va revenir à ce thème, mais voilà. Vu qu'on a limité dans le temps, on va passer à notre sujet, mais on t'entend ici personnellement, ou à Marseille, ou à la mission, si d'accord. Ça te dit, pour continuer cet échange.
D'accord, très bien. Donc à une prochaine fois alors.
Oui, merci exact, beaucoup. Merci beaucoup.
Oui, au revoir.
Au revoir. Au revoir.